Et puis, les négociations avec Washington sont dans une phase intense, soutient le premier ministre du Canada, Mark Carney. En fait, des négociations avec les États-Unis là, pour un accord commercial, pour éviter cette nouvelle menace de sanctions commerciales contre le Canada par le président états-unien Donald Trump. Bien, c'est ça qui se fait présentement. La fameuse date limite, c'est le 1er août, donc vendredi. Pour discuter de tout ça, évidemment, le professeur d'économie à l'Université de Montréal, Michel Poitevin. Bonjour, Michel.
Bonjour, Monsieur Chabot.
Alors, le Canada tente de négocier un nouvel accord avec les États-Unis. On en est où, là, présentement?
On n'a malheureusement pas beaucoup d'informations. Le président Trump a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de chance avec le Canada, là, donc il semblait laisser entendre que ça n'allait pas à son goût. Puis en même temps, comme vous l'avez dit, M. Carney dit que on est dans une période intense, et puis il dit qu'il faut faire attention à ce que dit M. Trump. Là, ça doit être compris dans un contexte de négociation. Donc, on va attendre de voir ce qui va se passer. Effectivement, s'il n'y a pas d'entente, les États-Unis ont menacé d'imposer des tarifs de 35% à partir de vendredi prochain, le 1er août, sur tous les produits qui ne sont pas couverts par l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, ce qui n'est pas tant que ça.
Oui, c'est ça.
35%, c'est un gros chiffre, mais ouais. Beaucoup de nos les échanges commerciaux entre les deux pays sont couverts par l'accord de libre-échange. Donc, la menace, il y a une menace qui est là, mais peut-être pas aussi sérieuse que ce à quoi on pourrait penser.
Ouais.
Ce qui se passe du côté américain, sûrement que la gestion de l'offre est dans le collimateur. Là, c'est un irritant pour les États-Unis depuis, pas juste depuis que M. Trump est là, depuis plusieurs années, les différents négociateurs ou différents accords, la gestion de l'offre revient toujours sur la table pour le lait, le poulet et les œufs. On en a parlé un peu la semaine dernière. Puis du côté canadien, certainement qu'on aimerait réduire les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui sont en ce moment à 50%. Pas juste pour le Canada, faut dire en passant, mais pour la planète, les Américains tarifs à l'ordre de 50% toute importation d'acier et aluminium sur leur territoire.
Tout ça survient donc dans un contexte où il y a eu une entente avec l'Union européenne qu'on vient d'annoncer.
Mais oui, on vient juste... ça a été scellé dimanche, quoique... Il faut attendre les textes finaux, mais il semble avoir une espèce d'entente de principe entre la Commission européenne, via Ursula von der Leyen et Donald Trump. L'accord va prévoir une taxe de 15% sur tous les produits européens exportés aux États-Unis. On peut dire, ça peut être surprenant qu'un accord de libre-échange spécifie des tarifs de 15%. Effectivement, c'est beaucoup plus que le taux en vigueur. On estimait que le taux moyen sur les exportations européennes vers les États-Unis avant l'arrivée de M. Trump était de 4,8%. Donc là, on serait à 15. Mais ce 15%-là, c'est beaucoup moins que ce que le président menaçait d'imposer, donc un 30% à partir du 1er août. Et en contrepartie, l'Europe, elle, menaçait de taxer à hauteur de 93 milliards d'euros des importations américaines sur son territoire. Donc, il y avait une guerre commerciale qui pendait au bout du nez. Puis on a pondu cet accord où toute exportation européenne serait tarifée à l'ordre de 15%. En plus de ces droits de douane, l'Union européenne s'est engagée à acheter de l'énergie à hauteur de 750 milliards. Je pense que c'est d'ici 2030, si je me souviens bien, de faire 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. L'Europe dit que la plupart de ces 600 milliards, ça avait déjà été annoncé. Bon, tout le monde essaye de sauver la face, on ne saura jamais ce qu'il y en est exactement. Mais l'accord a été critiqué par certains. Est-ce que l'Union européenne aurait pu avoir mieux? Du côté de l'Union européenne, on se défend. On dit que il y avait cette menace de 30% le 1er août, puis dans les circonstances, c'est mieux que ce qu'on... On ne peut pas avoir mieux que ce qu'on a négocié. Puis ce qu'on se rend compte, ce que ça révèle, en fait, c'est que le marché américain était très prisé de tous les producteurs, tous les pays, partout. C'est, l'économie américaine, c'est la plus grande et la plus riche économie au monde. Tout le monde veut y faire affaire. Puis M. Trump, lui, se sert de ça pour essayer d'imposer le plus possible à ses partenaires. Puis peut-être, je pourrais mentionner aussi que la Chine est également en négociation, une négociation intense avec la Chine à Stockholm, si je ne m'abuse, pour essayer de parvenir à un accord. J'ai l'impression que la Chine a un plus gros pouvoir de négociation que l'Europe. Ça peut sembler paradoxal.
Ah,
l'Europe,
oui.
C'est quand même économiquement un continent important, mais je pense que les États-Unis ont peut-être plus besoin de la Chine, notamment des métaux rares ou les terres rares là, que la Chine contrôle à l'échelle mondiale. Donc, alors,
Puis il y a
j'ai
aussi,
l'impression que...
ouais, moi j'ajouterais que tous les Walmart, les Costco, les
Oui,
entreprises,
oui.
les grandes chaînes qui achètent à peu près tous leurs produits de Chine pour vendre à rabais aux consommateurs états-uniens. Le problème, c'est quand on augmente les tarifs, ça va finir par être transmis aux consommateurs. Ça, c'est peut-être pas une bonne chose à long terme.
Bien, c'est ça, la Chine, il y en a qui disent que c'est l'usine de la planète. Bon, c'est un peu exagéré, mais quand même, ils ont une grosse part de l'industrie manufacturière mondiale. Puis effectivement, leurs prix sont imbattables. Alors, comme vous dites, là, tous les magasins, les grandes surfaces à rabais, comme les Costco, Walmart, ils vivent avec ça, là. Et donc, ils offrent des bons prix, puis c'est en grande partie grâce à une production qui est pas cher en Chine. Donc, ça affecte tous les consommateurs. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt des Américains de négocier un accord de libre-échange avec eux. Parce qu'on a vu dans la dernière année, le dirigeant chinois, Xi Jinping, est pas, il se laisse pas faire, là. Je pense qu'il a répondu du tac au tac à chaque fois que les Américains ont fait quelque chose. Donc, je pense que du côté américain, on est plus prudent avec la Chine peut-être qu'avec d'autres partenaires commerciaux.
Bon, alors, cela dit, revenons au Canada. Nous, on
Oui.
a l'air de quoi dans tout ça?
Bien, ça va être à suivre. On est une petite économie, là. On n'est pas, pour les Américains, on n'est pas gros, là. On n'est pas, ils échangent beaucoup avec le Canada, mais on n'a pas de marché européen ou de marché chinois. Mais en même temps, on est un partenaire naturel, ne serait-ce que par notre situation géographique. Je pense que c'est dans l'intérêt des Américains de faire une entente avec nous, mais j'ai l'impression que eux croient qu'ils ont le gros bout du bâton. Et puis l'entente avec l'Union européenne, là, que certains critiquent, là, le mieux qu'ils ont pu faire, ce sont des tarifs de 15%. Je pense que ça laisse présager que le Canada ne pourra pas décrocher la Lune, là,
Ouais.
si jamais il y a une entente d'ici le 1er août. Ce qui n'a pas l'air d'être certain, là, on verra, là, mais il y a peu d'informations qui transpirent. Mais à date, on n'a pas l'impression que les déclarations soulignent de l'optimisme de part et d'autre.
Cela
Quant
dit,
à une entente, là, d'ici le
oui.
1er août.
C'était peut-être pas prévu, mais juste pour voir un peu, là, il semble bien quand même que jusqu'à maintenant, parce qu'il y a quand même eu des tarifs d'imposés, il y a quand même eu des changements économiques, mais semble-t-il, je pense à General Motors, en tout cas, semble-t-il que ça n'a pas eu encore d'impact sur les économies respectives du Canada et des États-Unis.
Effectivement, on a l'impression qu'il y a plusieurs grandes compagnies qui ont décidé d'absorber les tarifs puis en refiler juste un petit peu, là, peut-être une petite partie aux consommateurs, mais pas autant que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Peut-être que c'est un effet court terme. Si les compagnies disent, ben là, on pense que finalement, ces tarifs-là, ils ne seront pas vraiment mis en place pour très longtemps, on va prendre nos pertes et puis... Puis après ça, quand les tarifs vont disparaître, ben on va être correct. Mais si les tarifs sont maintenus à long terme, j'ai l'impression que le consommateur va avoir une plus grande partie à lui être refilée.
Oui, tout à fait. Puis on disait aussi qu'avant, avec l'annonce des tarifs, beaucoup d'acheteurs aux États-Unis se sont précipités là, pour faire des stockages, là, des biens dont ils ont besoin. Mais éventuellement,
C'est ça,
c'est
on a
ça.
vu le mot anglais, là, mais des hausses importantes ou soudaines dans les importations ou exportations juste après l'annonce, mais avant la mise en vigueur des premières vagues de tarifs, justement, on augmente les inventaires, puis on essaie de se prémunir. Mais ça a un effet court terme, là, ça.
Ben oui. Alors, cela dit, demain, les grandes banques centrales vont annoncer des décisions importantes.
Oui, ça va être intéressant à suivre. Il y a la Banque du Canada qui doit annoncer son taux directeur. On s'attend là pour une troisième décision consécutive à ce que le taux demeure inchangé à 2,75. Le marché du travail, pourquoi? Il y a un paquet d'incertitudes. D'une part, on a les tarifs qui pourraient générer de l'inflation. Puis qui dit inflation, on dit mais on peut augmenter un peu les taux d'intérêt pour pas que l'inflation parte en vrille. Mais en même temps, les tarifs peuvent réduire l'activité économique au Canada. Puis là, on se dit bien, peut-être qu'il faudrait baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'activité économique. Mmh. Alors, c'est pas une période facile pour la Banque centrale du Canada. Mais le marché du travail semble bien tenir. Là, on a eu les dernières annonces du taux de chômage. On a eu une légère baisse, là, pas une grosse baisse, mais une légère baisse. Le taux de chômage se situe un peu en dessous de 7 %. Alors, il n'est pas faible, mais il a l'air de se maintenir, même baisser un petit peu. L'inflation est en légère hausse à 1,9 % là, au dernier chiffre, mais en même temps, c'est sous la barre des 2 % qui est la cible de la Banque du Canada. Alors, tout ça fait dire, la plupart des experts s'entendent pour dire ben probablement là, que ça va être un peu on attend puis on voit ce qui se passe, là, donc maintenir les taux à 2,75.
Et puis, aux États-Unis, de leur côté?
Du côté américain, ça va être très intéressant pour différentes raisons. L'économie va bien, puis l'inflation est relativement élevée, là. Bon, certains indices, là, peut-être pas l'indice global, mais certains indices sont autour de 3 %, ce qui est en haut de la cible également de 2 % aux États-Unis. Donc, j'ai l'impression que si on se fie seulement aux considérations monétaires puis d'inflation, on devrait garder le taux d'intérêt entre 4,25 et 4,50 comme il est en ce moment. Par contre, on sait que M. Powell fait face à des pressions politiques qui sont à peine voilées.
Là, oui, Powell qui est le directeur de la
oui,
Fed,
oui. Excusez-moi, oui, le gouverneur de la Banque centrale américaine, là, de la Réserve fédérale. Puis il y a des pressions politiques qui sont quand même assez explicites de la part de Trump puis de son équipe pour baisser les taux. Bon, le président Trump, il voudrait que les taux d'intérêt baissent pour favoriser les consommateurs. Il y a peut-être en vue les élections de mi-mandat là, qui seraient à l'automne 26. Donc, il voudrait qu'il y ait des répercussions sur l'économie, mais le risque, c'est si on baisse les taux d'intérêt trop vite, c'est que l'inflation augmente beaucoup. Puis M. Powell, son rôle, lui, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'inflation ou très peu d'inflation aux États-Unis. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il va céder aux menaces politiques de Trump. Là, on sait que c'est pas deux personnes qui s'apprécient tant que ça de ce temps-là, mais en même temps, on peut rappeler que Powell avait été nommé par le président Trump pendant son premier mandat, et peut-être la relation entre les deux s'est détériorée depuis.
On a l'impression que les amitiés qu'entretient Donald Trump ne durent pas très longtemps, hein, parce que je pense aussi à son acolyte Elon Musk récemment. Ça n'a pas duré longtemps non plus, cette bromance-là.
C'est ça, elles sont volatiles comme ces tarifs.
D'accord. Michel Poitvin, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.